ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone. De retour après une longue absence, me voici Viviane au micro pour présenter les nouvelles sur la Pleine Lune. Oui, la Pleine Lune, parce que comme tous les mercredis, à partir de 18h30, c'est la Pleine Lune sur 93.8 MHz. Avec un numéro de téléphone, le 450... 40 51 41 059 depuis la Suisse et un numéro de téléphone et une adresse 7 boulevard Karl Vogt 1205 Genève, Ondes Femmes sur Radio Zone. Alors au programme ce soir, eh bien dans quelques instants les informels, les nouvelles de la Pleine Lune et puis Marjolaine a fermé son cœur aujourd'hui pour une semaine mais vous la retrouverez la semaine prochaine. Donc musique, paroles et musique de femmes à partir de 20h. Je vous rappelle que ces émissions sont rediffusées le jeudi dans la matinée et dans l'après-midi. Mais tout de suite, c'est les nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone, nos nouvelles. En Algérie, les imams acceptent finalement que l'avortement soit autorisé en cas de viol par les intégristes. Le Haut Conseil islamique, organe religieux officiel en Algérie, a rendu une fatwa autorisant l'avortement pour les femmes violées par des membres des groupes islamiques armés. L'interruption volontaire de grossesse est désormais tolérée par les imams algériens en cas, je cite, d'extrême nécessité après un avis médical stipulant qu'elle ne risque pas de mettre en danger la vie de la mère. Le Haut Conseil islamique a été saisi par le ministère de la Solidarité et de la Famille. L'avortement est toujours interdit par l'islam qui l'assimile au meurtre, mais le cas des femmes violées par les groupes armés a suscité un choc au sein de la société algérienne profondément conservatrice. Le viol y est vécu comme une faute, apportant l'opprobre sur toute la famille qui souvent renie la victime. C'est pourquoi d'ailleurs les féministes algériennes partent également en guerre pour que non seulement le viol soit autorisé en cas de viol par les islamistes, l'avortement soit autorisé en cas de viol par les islamistes, mais surtout que le viol soit assimilé à un acte de guerre, de manière à ce que les femmes soient des martyrs, des victimes de la guerre, comme les hommes qui sont blessés. C'est ce qui s'est passé en Bosnie où, face à la multiplicité et des viols utilisés vraiment comme une arme d'agression, l'imam de Bosnie, les autorités musulmanes ont décrété que dans ce cadre-là, le viol était un acte de guerre commis contre les femmes. En Ouganda, même à la campagne, les femmes découvrent la liberté. À l'accoutumée, on ne peut pas dire que les tribunaux ruraux ougandais rendent des jugements très éclairés. Fréquemment, lorsqu'un villageois est reconnu coupable de viol, les décisions de justice sont plus qu'étranges. On ordonne par exemple au coupable d'offrir une chèvre et une barrique de bière aux jurés. Le fautif est en outre condamné à épouser sa victime. Afin de dédommager les parents de cette dernière, on lui demandera fréquemment de leur offrir un veau. Le plus souvent, ceci se félicite d'un règlement à l'amiable. Pour beaucoup de villageois, les filles sont une source d'enrichissement. En général, ils acceptent ces transactions parce que les pères intègrent dans leur raisonnement le fait que la valeur marchande de leur fille, parce qu'elle a été violée, sera réduite. Ils cherchent donc à limiter leurs pertes. Ils préfèrent récupérer un veau dans l'immédiat plutôt que de risquer de tout perdre sur le long terme. Et si l'homme épouse la fille qu'il a violée, l'affaire n'est plus traitée comme un crime. L'ancien violeur et futur mari est simplement considéré comme un coureur de jupons, un peu maladroit quand même. Pourtant, même dans les campagnes, la condition féminine s'améliore. Par exemple, à Rabongo, un village à l'est du pays, le président d'un tribunal rural a récemment libéré une dénommée Annette de l'emprise de son mari. Le juge a notamment déclaré, je cite, « Cet homme est impossible. En 1 an et 8 mois, j'ai dû statuer 116 fois sur des affaires dans lesquelles il était impliqué. Il bat sa femme pour un rien. Une fois, il a failli la tuer parce qu'elle ne lui avait pas servi à manger de la tête de poisson frais. Pour sauver la vie de cette femme, nous devons la libérer. » Fin de citation. Pour un tribunal de village, ce verdict est remarquable. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que cette décision a été acclamée par les habitants. Pourtant, le mari de la plaignante n'a pas voulu entendre raison. Il a affirmé que ce divorce était le résultat d'un complot ourdi par des envieux qui veulent lui dérober sa bonne épouse, réputée pour sa beauté. Cette obstination n'a pas empêché Annette de faire ses bagages et de commettre l'impensable. Pour une femme du monde rural africain, elle a loué une habitation dans le village de son ex-mari, puis elle a fait savoir qu'elle était une femme libre et que tout homme intéressé avait le droit de poser sa candidature. En Russie, la situation des femmes est de plus en plus dure. Sous le régime soviétique, les femmes travaillaient dur, bien sûr, tout en élevant leurs enfants. Mais au début des années 90, elles déclarent vouloir se consacrer à leur famille. Aujourd'hui, les plus jeunes aspirent surtout quand même à faire carrière. En 1992, les résultats d'une enquête sur la famille russe révélaient une division intéressante. 90% des femmes interrogées considéraient que leur vie était centrée sur la famille, tandis que 11% tendaient à accorder la priorité à leur travail. Toutes relevaient pourtant du schéma type de l'époque soviétique, celui de la mère de famille qui travaille. Lestées d'une double charge, les femmes, cependant, perdaient sur les deux tableaux. La famille au sein de laquelle leur influence restait largement prépondérante ne leur procurait que peu de joie et de satisfaction quant au travail, même diplômée, et nourrissant de grandes ambitions, elle devait se contenter du rôle spécifique de travailleur femme qui offrait moins de perspectives qu'aux hommes, ce que toute la société savait très bien. Il ne faut donc plus s'étonner qu'en 1992, à pleine remise en cause des anciennes valeurs, un tiers d'entre elles ait exprimé un net désir d'abandonner leur travail pour devenir des femmes au foyer. Mais il est vite apparu que les familles qui arrivent à maintenir un niveau de vie suffisant grâce à un seul revenu du père constituaient une telle minorité que les femmes, du coup, malgré leur désir, se retrouvent à travailler dans les mêmes conditions de plus en plus dures qu'auparavant. À tel point d'ailleurs que certaines ont protesté, puisque dans certaines entreprises, les travailleurs sont payés en nature. C'est le cas des pêcheurs de Vladivostok qui ne sont payés que par de la vodka. Et les femmes de ces pêcheurs ont protesté publiquement par une lettre ouverte contre la société des chalutiers, pour laquelle leur mari travaille. Depuis des mois, les pêcheurs reçoivent leur salaire sous forme de bouteilles de vodka. Résultat, elles n'ont rien à faire bouillir dans la marmite et les chalutiers partent en mer avec des équipages complètement sous. On ne compte plus les accidents. L'alcoolisme fléau national fait des ravages dans les familles de pêcheurs. En Russie, le versement du salaire en nature est courant lorsque l'employeur est à court de liquidité, mais les employés reçoivent généralement des biens de consommation utiles à toute la famille et non pas de l'alcool. En Inde, 40 femmes ont été élues au Parlement. Cela fait prélude de 7% des sièges et une femme de plus que l'an passé. Parmi elles, 15 membres du Parti du peuple indien, la droite nationaliste fondamentaliste, 8 du Parti du Congrès, 5 communistes, 3 socialistes et 9 indépendantes. Toujours en Inde, les deux belles filles de Indira Gandhi se retrouvent sur le devant de la scène politique. Maneka, la veuve de Sarai, en tant que ministre d'un gouvernement nationaliste et fondamentaliste dont elle ne partage guère les idées sectaires. Sonia, la veuve de Rajiv, comme leader d'une opposition qui compte. À 51 ans, cette femme d'origine italienne qui s'est refusée pendant des années à faire de la politique a été catapultée présidente du parti du Congrès, puis chef du groupe parlementaire de ce même parti. Comme elle n'est pas députée, elle n'est même pas s'est jamais présentée aux élections, le parti a dû modifier ses statuts pour lui confier ce poste élevé. Le chef du groupe parlementaire est en effet voué à devenir Premier ministre si son parti l'emporte aux prochaines élections. Aux États-Unis, mieux vaut avoir bonne mine pour garder son travail. Les gens qui aux États-Unis recourent à la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreux et de moins en moins fortunés. Selon les chiffres de l'association professionnelle, 65% d'entre eux ont un revenu familial inférieur à 50 000 $. La plupart de celles et ceux qui se font opérer invoquent des raisons d'emploi. « Personne ne veut paraître trop vieux et fatigué au travail », déclare un professeur de sciences et de comportement à l'Université de New York. Le nombre d'interventions est passé de 179 000 il y a 5 ans à plus de 500 000. L'intervention la plus fréquente est la liposuction qui consiste à faire disparaître les bourrelets de graisse par aspiration et qui concerne d'ailleurs aussi les hommes, ils sont 11% à le faire. Suivent ensuite l'augmentation du volume des seins, 4 fois plus fréquente qu'il y a 5 ans, et le relevement des paupières 2 fois plus, tout ça pour trouver du travail. Toujours aux États-Unis, les mouvements féministes se distancient de Bill Clinton. Bien que le juge ait déclaré que l'accusation de Paula Jones de harcèlement sexuel et surtout de suite de ce harcèlement sexuel ne soit pas poursuivable, les mouvements féministes commencent quand même à se dire que Bill Clinton méprise un peu trop les femmes. L'électorat féminin avait assuré la réélection de Bill Clinton. Il pourrait bien aujourd'hui précipiter sa perte si des nouvelles accusations de harcèlement sexuel continue et s'avère exact. Pour la première fois depuis l'éclatement du scandale politico-sexuel qui éclabousse Clinton, les mouvements féministes sont en effet sortis de leur mutisme embarrassé et se sont distanciés du président des États-Unis. En 1991, les grandes associations féministes étaient montées au créneau pour défendre Anita Hill. Vous vous en souvenez de l'histoire, une secrétaire victime d'avances sexuelles répétées et non désirées de la part de son patron d'alors, Clarence Thomas, un juge républicain candidat à la Cour suprême. L'affaire Hill avait alors été considérée comme un cas d'école. Le Sénat avait été contraint, sur pression des mouvements féministes, de tenir des auditions publiques sur la nomination du juge qui finalement avait été élu malgré les accusations très claires de Anita. Aujourd'hui, le NAO, l'Organisation nationale des femmes, principale association féministe du pays, juge les accusations contre Clinton très graves. Une déclaration qui pourrait signifier le prélude d'un changement d'opinion dans l'électorat féminin. Car le silence gêné jusqu'ici des féministes reflétait l'état d'esprit de nombreuses femmes à travers le pays, embarrassées par les allégations lancées contre un président, par ailleurs, très sensible aux causes féministes, du droit à l'avortement, par exemple, jusqu'aux congés parentaux. Bill Clinton est aussi le premier président à avoir nommé autant de femmes, toutes races confondues, à des hautes fonctions de l'exécutif. De nombreux politologues s'accordent à penser qu'une érosion du soutien de l'électorat féminin serait de très mauvaise augure pour Bill Clinton. En France, Lionel Jospin désire inscrire dans la Constitution la question de l'égalité des sexes. C'est à l'Assemblée nationale, temple du machisme, si l'on en croit plusieurs députés, que Lionel Jospin a prononcé le fait que l'égalité pourrait figurer dans la Constitution. La loi ou la loi organique peut fixer des règles favorisant l'accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques, professionnelles et sociales, a-t-il souhaité. Les premières intéressées, les femmes, ont semblé plutôt satisfaites. « Je suis très heureuse », a déclaré une députée socialiste, Catherine Tasca, présidente de la commission des lois de l'Assemblée, pour qui Jospin venait de donner véritablement un tournant à un élan absolument décisif. Sur un dossier qui va quitter les ornières purement juridiques, c'est une très très bonne solution d'inscrire cette formule dans la Constitution, a également indiqué Yvette Roudy. Nous nous serons ainsi définitivement débarrassés de l'argument qui consiste à dire que les mesures de discrimination positive en faveur des femmes sont contraires au principe d'égalité qui est dans la Constitution. Le seul opposé, bien sûr, ce sont des hommes de droite. Ainsi, le député RPR Pierre Lellouche juge dramatique une politique des quotas. En en France. Le drame d'une jeune malienne mariée de force pose le problème nouveau pour la société française des mariages forcés dans l'immigration africaine. C'est en janvier que Amina s'est présentée au commissariat parisien. Récit de 7 jours de cauchemar qui déclenche immédiatement l'ouverture d'une enquête pour viol et séquestration. Mais c'est d'un mariage dont il s'agit dans la tradition des peuples du Sahel. Amina vient de passer une semaine au domicile de son époux, vêtue d'une bure blanche sous la surveillance d'une tante. Son époux lui a fait l'amour tant qu'il a voulu, puis la tante l'a ramenée à domicile familial. On l'a coiffée, habillée à l'africaine. Amina va donc être mariée à cet homme qu'elle n'a pas choisi. Amina, c'est un cas tout à fait exemplaire, puisque deuxième génération réside en France. Elle a étudié, elle est étudiante en droit, elle gagne sa vie. Et de son point de vue de française, il s'agit bien d'un viol, admettent tout le monde. Du point de vue des familles, par contre, et du mari, les 7 jours, ce n'est pas une séquestration, ce sont les 7 jours nuptiaux. Pour la communauté, ce n'est pas un viol. Elle est mariée, c'est clair et net, même s'ils ne sont pas passés devant le maire, même si elle n'était pas d'accord. Pour la communauté, Amina est donc une fille perdue. Elle a porté plainte contre le mari, placé en détention, contre la tante, rebaptisée Marieuse, par les policiers et qui est également arrêtée. C'est donc une nouvelle problématique que pose l'Association des femmes africaines qui a tiré les sonnettes d'alarme il y a déjà 4 ans. Après l'excision et la polygamie, ce sont les histoires de mariage forcé qui provoquent des véritables drames. Beaucoup de familles prétendent empêcher ainsi leurs filles de mal tourner. On essaye alors de discuter, de renouer les confiances entre les générations. Mais quelquefois, on ne peut rien faire. Les filles ont été promises à telle personne de la tribu au pays. Les plus jeunes sont renvoyées là-bas. Elles n'ont qu'à se soumettre. Le sujet d'ailleurs reste tabou et provoque l'agressivité au sein même des associations féminines. À Genève, contestation dans la profession d'infirmière. L'ambiance et la révolte au sein de la section genevoise de l'Association suisse des infirmières, l'ASI, qui n'est plus du tout d'accord et demande une reconnaissance salariale et morale. Une revendication salariale donc, mais aussi une revendication sur la place donnée aux infirmières dans le pouvoir de décision. Pour rappeler les exigences de plus en plus strictes de leur métier sur le plan de la polyvalence et de la formation et des responsabilités, sans oublier la disponibilité, les risques et inaptitudes aux relations humaines. C'est la première fois que les femmes infirmières demandent une réévaluation de leurs fonctions. Elles ont utilisé donc la loi sur l'égalité et demandent une reconnaissance de discrimination. Leur profession, dit-elle, est mal reconnue. On ne reconnaît pas toutes les fonctions, toute l'empathie, tous les savoir-faire qui sont essentiels. Et c'est donc une démarche tout à fait originale qui vise à démontrer le traitement inégal d'une profession majoritairement féminine dans la détermination des classes salariales appliquées par le service de l'évaluation des fonctions de l'État. De nombreux critères, la plupart du domaine psychosocial et relationnel, sont absents, sous-évalués dans les grilles d'analyse qui sont généralement utilisées. Un exercice a donc été fait par une infirmière. Elle a comparé la profession d'infirmière avec la profession de gendarme, ces derniers étant majoritairement composés d'hommes. Et on voit que l'application de la grille des classes salariales est inégale. Nous obtenons davantage de points, mais nous sommes placés dans une classe égale ou inférieure, soulignent les infirmières de l'ASI. Le débat sur le génie génétique commence à s'amplifier. De plus en plus de personnes pensent que l'initiative est maximaliste et qu'elle ne devrait pas passer, qu'elle ne va pas passer. Il est bon de rappeler que, en tout cas, dans les laboratoires, on continue à réfléchir, à chercher pour bidouiller le plus possible les gènes, que ce soit animaux, végétaux ou pourquoi pas humains. Ainsi, d'éminents généticiens américains envisagent de manipuler directement l'embryon humain et de partir à ce qu'on appelle les thérapies transgéniques. Pour la première fois, des généticiens de haut niveau ont donc levé le tabou de la manipulation de l'espèce humaine. Ils se sont publiquement prononcés contre toute interdiction de la thérapie génique dite germinale, une technique qui entraîne une modification génétique de la descendance du patient. Pour l'appel des généticiens, survient donc au moment où le comité américain chargé d'examiner les demandes d'essais de thérapie génique envisage lui aussi de revenir sur son interdiction de tout essai de thérapie génique germinale. La même transgénique est-il donc l'avenir de l'homme ? Telle est la question. Après les plantes, les animaux transgéniques, va-t-on créer des hommes et des femmes qui porteront dans leur patrimoine héréditaire des gènes introduits par des biologistes et qui seront transmis aux générations futures ? Des gènes à haute valeur ajoutée, protégeant contre des maladies, conférant des aptitudes physiques, voire psychologiques particulièrement recherchées. De la thérapie génique telle qu'elle était tentée actuellement dans des dizaines d'hôpitaux, sur des centaines de malades, on passerait donc à une thérapie génique germinale. Le pas est d'ailleurs très grand. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans le premier cas, celui de la thérapie génique somatique, on tente de traiter le patient comme on le ferait avec un médicament. On introduit dans certains de ses cellules, peau, muqueuse, muscles, un gène qui doit leur faire produire une substance thérapeutique. L'objectif est de compenser un déficit dû à une anomalie génétique ou de renforcer les capacités de certaines cellules à attaquer des tumeurs, à se défendre contre un virus, etc. Dans tous les cas, les cellules de cible de la manipulation génétique sont somatiques. Elles sont vouées à mourir avec la personne. Tandis que dans la thérapie génique germinale, c'est une modification au niveau des gènes. Donc, dans ce cas-là, c'est toute la lignée qui serait modifiée. Là, le but n'est pas de traiter une maladie, mais un embryon atteint, par exemple, d'une maladie génétique. Comment s'y prendrait-on ? On introduirait donc un gène modifié au niveau de l'embryon de deux ou trois cellules, de manière à ce qu'il s'introduise dans la lignée germinale. Les chercheurs ouvrent ainsi la voie aux manipulations destinées non à guérir, mais à améliorer les performances physiques ou psychologiques de toute la descendance. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8, j'y arriverai, excusez-moi. Quelques annonces pour terminer. Vous savez que c'est bientôt le 1er mai. Alors, une manifestation, bien sûr, sur le thème de l'assurance maternité. 53 ans d'attente, ça suffit. Donc, 15h, manifestation, départ, comme toujours, vers à la boulevard Jean-Fazy, place des 22 cantons, et puis arriver à 16h, 16h30, au Bastion, où là, il y aura toute une... des stands, etc. Donc, voilà, la manifestation du 1er mai à ne pas oublier. Et puis, également, vous signalez qu'un cours d'autodéfense pour filles va commencer le 23 avril, c'est tout de suite. Hein. Et il est organisé donc pour des filles de 8 à 12 ans. Ça a lieu dans le quartier de la Servette. Vous pouvez vous renseigner 344 42 42, je répète, 344 42 42, c'est à Genève. Vous signalez également qu'il y aura une magnifique exposition de photographies de Simone Opflinger sur le thème de l'exil féminin pluriel. C'est le thème qu'a choisi la photographe Simone Opflinger pour illustrer le travail qu'elle a fait au centre Camarada, donc des réfugiés. Une exposition à découvrir tout le mois de mai à la Villa du Toit. La Villa du Toit, c'est donc la maison de quartier du Petit Saconnet, c'est au chemin Trolliet, et c'est à partir du 16 mai. C'est donc tout à fait une exposition extraordinaire et je vous conseille de vous y rendre. Vous signalez également que l'université ouvrière commence à partir de jeudi un cours sur Hannah Arendt, une des plus grandes philosophes de ce siècle. Philosophie politique, Hannah Arendt, aujourd'hui, c'est un cours ouvert à toute personne intéressée par la philosophie, n'exigeant aucune connaissance préalable. C'est donc à partir du 23 avril jusqu'au 25 juin. C'est à l'Université ouvrière. Il fallait déjà vous inscrire, mais peut-être vous pouvez vous y rendre. Ça commence à 18h45, vous inscrire sur place. Sinon, vous téléphonez au 733 50 60 à Genève. Et voilà, c'est terminé. Les nouvelles de la pleine lune, c'est fini. Marjolaine, cette semaine, ne sera pas là. Elle revient la semaine prochaine. Moi, je vous laisse en compagnie d'un programme musical. Bonsoir, à bientôt. Concerne pas tous les employés. Les critères de mobilité constituent un élément essentiel dans l'octroi de mesures d'accompagnement auxquelles ne peuvent donc pas prétendre des collaboratrices pour lesquelles une solution d'emploi était disponible à Bussigny. Pour rentrer dans leurs critères de mobilité, il faut accepter 3 heures de déplacement quotidien, rétorque une ex-employée de l'UBS qui ajoute « Vous imaginez que c'est concevable pour un emploi à mi-temps ». Le syndicat dénonce le mépris de la direction de l'UBS face à ses employés, dont certaines peuvent faire valoir de nombreuses années de fidélité à leur employeur. Mais il craint le pire, que ça soit bien pire à venir. Il en veut pour preuve que lors de la présentation du plan social, censé atténuer le choc de la fusion SBS-UBS, les dirigeants des deux banques ont misé sur la mobilité. FF Formation ouvre ses portes aux hommes. L'association FF Formation, qui depuis des années informe et aide les femmes dans leur vie pratique et dans tous les aspects de leur vie, ouvre donc une permanence pour les hommes. Et oui, d'ailleurs, c'était une demande de beaucoup de femmes qui venaient en disant « Mais pourquoi est-ce que vous ne faites rien pour les hommes ?» Cette permanence est donc ouverte. 2 hommes assurent la permanence de 2 heures hebdomadaires. Il s'agit de Claude Julier et Sylvain Thiébault, tous deux maris, pères et professionnels du travail social. Cette permanence, qui ne veut pas être un centre de prise en charge, sert pour informer et orienter les hommes vers des lieux spécialisés tout en leur offrant un espace de rencontre entre hommes où il est possible de poser les valises et les masques. La permanence est donc ouverte tous les mercredis de 12h15 à 14h15 dans les locaux de F Information, 19 rue de la Servette. Par ailleurs, F Information republie un guide pratique des femmes de Genève qui vient d'être réactualisé et qui offre un éventail de 300 contacts dans les domaines très variés avec en prime pour les brancher des références e-mail. Et pour terminer, les femmes catholiques demandent pardon à pour sortir de l'anti-judaïsme chrétien. Dans le contexte de l'affaire des fonds en déshérence et de la résurgence d'un certain antisémitisme, la Ligue suisse des femmes catholiques a publié une courageuse déclaration pour sortir de l'anti-judaïsme chrétien. Elle rappelle la co-responsabilité des femmes catholiques dans les abominations commises contre les juifs et rappelle entre autres que Jésus est né et mort juif. Tiens, il ne fallait pas l'oublier. C'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz, Ondes Femmes Radio Zone. Dans quelques instants, Marjolaine vous ouvre son cœur.
La brume glacée du matin venait m'éveiller dans la paille aux granges dorées des moulins. Venait m'éveiller dans la paille aux granges dorées des moulins.
Ne quittez pas l'écoute, vous êtes toujours sur Radio Pleine Lune et ça sera l'heure du Memento dans vos oreilles dans quelques petites secondes.